Juste en introduction, quelques versets que Dieu a placés sur mon cœur. Et ces versets se trouvent dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 1, du verset 35 au verset 39. Je vous laisse le temps de chercher pour découvrir ce qu'a été l'expérience de ces deux disciples qui se sont mis à suivre le Seigneur Jésus. Jean chapitre 1, du verset 35 à 39. Et nous lisons ensemble. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Alors Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où ils demeuraient, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure, c'est-à-dire 16 heures de l'après-midi. De ce passage de l'Écriture, j'aimerais faire plusieurs remarques qui pourraient tous nous interpeller ce matin. Le texte, je l'ai dit, nous présente deux disciples qui se mirent à suivre Jésus après qu'ils aient entendu de la bouche de ce prophète, le prophète Jean-Baptiste, que Jésus était l'agneau de Dieu. Avez-vous fait attention, au contraire des chants, nous avons chanté l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Et je voudrais premièrement noter que ce sont ces mêmes paroles prophétiques qui sont sorties de la bouche de Jean-Baptiste, qui ont pu produire une action puissante dans la vie de ces deux disciples. Ces deux disciples qui jusqu'alors suivaient assidûment et avec ferveur le disciple Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, soudainement, ils se sont mis à pouvoir suivre le meilleur des maîtres, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Fils du Dieu vivant et vrai. Et je crois qu'il n'y a que la parole de Dieu qui est capable d'avoir un tel impact, une telle puissance dans les cœurs, pour donner pour faire en sorte que nos yeux s'ouvrent, que nos cœurs s'ouvrent et que nous comprenions que Jésus n'est pas seulement le Fils de l'homme, il est avant tout le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, il est venu en chair, il est venu pour mourir à la croix pour nous, afin qu'en retour nous soyons délivrés de nos péchés et que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père. Et plaise à Dieu, et c'est ma prière encore ce matin, que la parole de Dieu puisse avoir cet impact dans les cœurs. Et puisse susciter dans nos cœurs littéralement des élans de foi pour que nous puissions nous lever, pour que nous puissions aller de l'avant et progresser dans nos marches avec le Seigneur. La Bible dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de faire attention à la manière dont on écoute. Quelquefois on peut s'habituer à écouter la parole de Dieu, mais que jamais nous nous habituons à écouter la parole de Dieu, mais que nous la recevions encore ce matin avec douceur. Jésus donc est suivi par ses deux disciples, et puis à un moment donné, Jésus s'arrête. Je ne sais pas comment vous faites pour vous quand vous lisez l'évangile, les évangiles et l'histoire de Jésus. Moi, j'aime toujours aller les imager dans ma tête, et je vois le Seigneur Jésus qui s'arrête et qui se tourne, le regard de Jésus. Peut-être s'imaginer quelle a été la pensée à ce moment-là dans le cœur ou dans l'esprit des disciples. Oh, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Et certainement Jésus, avec un regard serein, va leur poser une question que je voudrais placer devant vous, que nous avons lue ensemble. Jésus va dire à ses deux disciples, « Que cherchez-vous ? » Vous savez, les questions de Jésus ne sont jamais anodines. Elles sont directes. Elles sont précises, elles sont même quelquefois incisives, elles sont pertinentes. Et j'ai même envie de dire que tout ce que nous pouvons lire dans la vie terrestre de Jésus, ses faits et ses gestes, même ses pensées, tout ont un sens dans la vie de Jésus. Elles nous indiquent un cap. Et le cap à suivre, c'est la vie éternelle. Tout de la vie de Jésus est capable de nous instruire. Et ce matin, Jésus, par cette question, veut nous instruire. Que cherchez-vous ? La question de Jésus, je le dis, elle est pertinente. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, ce que nous cherchons de tout notre cœur, eh bien, va par la suite influencer l'ensemble de notre vie. Quand on s'attelle à pouvoir chercher quelque chose qui nous tient à cœur, bien sûr, notre énergie est sollicitée, notre volonté est sollicitée, notre motivation, notre persévérance est sollicitée. Et tout, finalement, dans notre vie, va être utilisé pour trouver ce que nous cherchons. C'est vrai ou c'est pas vrai ? M'arrivait à des moments de chercher quelque chose, j'étais déterminé. S'il fallait même remuer ciel et terre et toute la maison, je l'aurais fait. Jusqu'à ce que nous trouvions la chose. D'où la raison d'être de la question de Jésus, qu'il a posée à ses deux disciples qui le suivaient. Que cherchez-vous ? Et cette question, ce matin, le Seigneur, il peut nous la poser. Que cherches-tu, mon frère ? Que cherches-tu, ma sœur ? Que cherches-tu, peuple de Dieu ? Tiens, pour être plus précis, qu'es-tu venu chercher ce matin au travers de ce culte dominical ? Quelqu'un va dire la paix de Dieu, d'autres va dire le réconfort, d'autres va dire juste la guérison, d'autres va dire la communion fraternelle. C'est important, la communion fraternelle. Ne pas se sentir seul. Il y en a qui souffrent de la solitude. Et je crois que c'est une bonne chose qu'on puisse se rassembler, se retrouver pour jouir de cette communion fraternelle, qui doit être différente de celle que l'on voit à l'extérieur. Il y a mille et une raisons et elles sont tout autant bonnes les unes des autres. On est venu aussi chercher Dieu en ce matin pour s'attacher à lui, pour l'aimer davantage, pour lui donner le meilleur de nous-mêmes, un culte qui lui est agréable, c'est-à-dire venir sur son autel et dire « Seigneur, tout à nouveau, me voici pour te servir ». On a entendu. Dieu nous rappelle ce matin qu'on a besoin de pouvoir répondre à l'appel, on a besoin de se lever pour être efficace et dire « Mais Seigneur, me voici ». En tout cas, les deux disciples qui suivaient Jésus ont aussi donné leur réponse. Et on la retrouve encore dans le texte qu'on a lu, alors que Jésus leur pose la question « Que cherchez-vous ?» Tous les deux répondent « Maître, où demeures-tu ? » En français courant, on dirait « Maître, où habites-tu ? Où résides-tu ? » Autrement dit, tu nous intéresses. Leur désir était de connaître celui qu'ils venaient de rencontrer au travers des paroles du prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste tourna à deux reprises d'ailleurs, pointant le doigt certainement vers Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Et à l'instant, ils ont été convaincus et ils ont reconnu en Jésus le Messie tant attendu, le Sauveur du monde. Mais ils voulaient le connaître davantage. Autrement dit, ces deux disciples avaient soif de connaître la personne de Jésus. Et je nous pose la question ce matin, est-ce que nous avons soif de Dieu ? La soif de Dieu est une clé qui me permet d'aller de l'avant. Vous savez qu'on peut venir dans la maison de Dieu de manière habituelle et même d'une manière religieuse, mais dans le sens péjoratif, parce que nous sommes appelés à être des religieux, mais dans le bon sens du terme. Religion veut dire être relié avec Dieu, être en connexion avec Dieu. Et on a besoin d'être en connexion avec Dieu. Ils avaient soif de connaître la personne de Jésus. Ce n'était pas suffisant. Ils voulaient pour cela avoir une intimité, une relation intime et profonde. C'est pour ça qu'ils ont demandé au Seigneur, mais où habites-tu ? Tu nous intéresses. On veut en savoir un peu plus. Je crois vraiment que Jésus a questionné les deux disciples pour nous révéler à nous, au XXIe siècle, ce qui doit être quelque part également notre motivation première. On peut venir pour plein de raisons devant le Seigneur et le Seigneur ne nous repousse jamais, parce qu'il est un Dieu bon, un Dieu d'abondance, qui veut bénir même au-delà de ce que nous pouvons penser ou espérer. Mais il attend aussi que nous puissions avoir faim et soif de qui il est, soif de sa présence. Chercher la présence de Christ afin de mieux le connaître. Voilà l'objectif qui nous conduira à coup sûr vers la vie éternelle. Il y a ce passage dans Jean chapitre 17, et d'ailleurs c'est Jésus lui-même qui parle et qui dit, Jean chapitre 17 verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, mais aussi celui que tu as envoyé. Et Dieu n'en a envoyé qu'un seul pour nous sauver, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et on a besoin, tout comme ses disciples, d'avoir cette soif. Tout comme d'ailleurs en son temps, David l'a manifesté dans l'un de ses psaumes. Je l'ai relevé pour vous, psaume chapitre 27 et le verset 4, regardez. Psaume chapitre 27, verset 4. David qui dit « Je demande à l'Éternel une chose, pas deux, pas trois, une chose que je désire ardemment. » C'est fort ce mot, ardent, un désir ardent. « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler. Il donne même la raison pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Vous avez vu les verbes ? Contempler, admirer. Vous savez, quand on est dans la contemplation, quand on est dans l'admiration, on n'a que très peu de mots. Je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup les animaux et quand je vais bien visiter un aquarium de la région, je suis dans l'expectative, dans l'émerveillement quand je vois la gloire de Dieu. Il y a très peu de mots. Tout se passe à l'intérieur. Seigneur, tu es merveilleux, oh, tu es magnifique. Oh, regarde celui-là et regarde celui-là. Pour contempler. Quand on vient dans la présence de Dieu, quand on vient dans la maison de Dieu, on est dans la contemplation. Quand dans le secret de notre chambre, à un moment donné, on a fini à bien apporter notre adoration, notre louange, il y a comme le Saint-Esprit qui nous donne à bien accuser un silence pour réaliser la douce présence de Dieu. Et pendant ce temps de jeûne et de prière, pour ceux qui étaient là, il y a eu des moments de silence, comme si ça nous était imposé. Et dans le silence, Dieu se manifeste. Dans le silence, Dieu se glorifie. Il a fallu bien instaurer le silence pour que Dieu tout à nouveau puisse parler à ce prophète qui, sur le chemin, était découragé. Dieu n'était pas dans le bruit, Dieu n'était pas dans le tonnerre, mais lorsque le silence s'est fait sentir, Dieu s'est révélé à son serviteur pour lui dire qu'il avait besoin de continuer parce que le chemin était encore long pour lui. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Vous savez, si nous avons ce matin soif de Dieu, je vous le dis de la part de Dieu, c'est signe de bonne santé spirituelle. Si le matin, vous cherchez, vous désirez avoir la présence de Dieu, si le soir, eh bien, vous aspirez encore à connaître davantage, si vous êtes attaché à Dieu, je vous le dis, c'est bon signe. C'est signe de bonne santé spirituelle. Et je prie Dieu pour que l'Église entière puisse avoir soif. Alléluia, soif de Dieu. Soif de la personne de Jésus-Christ. Avoir soif de Dieu, non pas pour ce qu'il peut nous apporter comme don. D'ailleurs, il va toujours nous bénir, ne vous inquiétez pas. Mais avoir soif de le connaître lui, soif de connaître sa présence, de connaître ce qu'il est lui, ses qualités. Désirer ardemment connaître la maison, sa demeure, sa présence, pour, alléluia, davantage le connaître. Maître, où demeures-tu ? Et c'est alors que, eh bien, à cette question, Jésus, eh bien, donne quelques directives. Il répond à ses deux disciples, venez et voyez. Vous savez, le Seigneur, il est très court hein, dans ses réponses quelquefois, mais c'est direct, c'est clair. Il n'y a rien à retrancher, il n'y a rien à rajouter. Il dit, venez, voyez. C'est étonnant, il ne donne pas une adresse. Hein. Il ne dit pas, j'habite à Istres, j'habite à Rassuin, j'habite à Miramas. Non, il dit, venez et voyez. Et je dis quelque part, heureusement qu'il n'a pas donné une adresse. Hein. Parce qu'encore aujourd'hui, les gens chercheraient non seulement à en faire un lieu de pèlerinage et même eh bien, un sujet d'idolâtrie. Heureusement que Jésus n'a pas donné d'adresse. De toute façon, eh bien, on le voit, on le constate quand on voit au niveau des évangiles, Jésus n'avait pas sur la terre de demeure qui lui appartienne. Au contraire, il allait chez l'un, il allait chez l'autre, il était hébergé. Et d'ailleurs, il le dira à un des scribes, Matthieu chapitre 8, verset 20, on peut le lire ensemble. « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Par contre, quand Jésus dit « Venez et voyez », Jésus est en train finalement de commencer à leur répondre. Jésus est en train de leur donner ou leur indiquer une démarche spirituelle. Une démarche spirituelle pour parvenir à sa demeure. Parce que Jésus écoute quand on lui pose des questions. Et ce qu'il nous répond est la réponse. Excusez-moi, je fais un jeu de mots. Jésus leur dit, venez et voyez. Tu veux connaître où je demeure ? Te dit le Seigneur ce matin. Ok, je t'y conduis, pas de problème. Je t'y amène. Mais pour cela, il faut tout d'abord que tu me suives. Que tu me suives pas à pas. Il faut que tu me suives sans tergiverser, ni à droite, ni à gauche. Et ni plus ni moins ce que Jésus était en train de dire à ses deux disciples. Et qu'il est en train de nous dire ce matin, tu veux connaître ma présence ? Tu veux connaître où je demeure ? Viens. Et on l'a entendu au travers des dons spirituels ce matin. Il nous faut d'abord venir à Dieu. Et même pour certains, revenir à Dieu. Tu as besoin d'abord d'obéir à Dieu, avant de voir. Quelquefois, on veut voir avant d'obéir. Et on l'a entendu au travers d'un don spirituel. Dieu veut bénir, Dieu veut faire grâce, Dieu veut nous faire voir sa gloire. Mais il nous faut d'abord, de tout notre cœur, eh bien nous soumettre à sa volonté, nous soumettre à ses instructions et savoir lui obéir. Avez-vous remarqué deux verbes, venir et voir. Le premier verbe nous invite à obéir à Jésus. Et le deuxième verbe, qui découle d'ailleurs du premier verbe, nous invite à expérimenter Christ. Et tu ne pourras pas pleinement expérimenter Christ si au préalable, tu ne te disposes pas à pouvoir suivre le Seigneur, à pouvoir lui obéir. D'ailleurs, de manière générale, il nous faut ici-bas suivre le Seigneur pas à pas et jusqu'au bout avant de voir sa demeure dans le ciel. Vous savez qu'il nous a laissé une maison merveilleuse. J'ai une maison là-haut, vous ne pouvez pas savoir. Merveilleuse. Jésus m'a dit, je m'en vais te préparer une place, Joël. Et lorsque je m'en serai allé, que je t'aurai préparé une place, je reviendrai et je t'emmènerai avec moi. Éternellement, je serai avec Jésus. Mais ne soyez pas jaloux, c'est également votre expérience. Mais pour cela, il nous faut suivre le Seigneur jusqu'au bout. Concrètement, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire de la part du Seigneur que si Jésus te dit de pardonner, alors il te faut pardonner. Autrement dit, il te faut obéir à ce que Dieu te dit de faire. Et alors, en retour, tu verras la justice de Dieu se manifester pour toi. Un autre exemple, s'il te dit d'aimer, même ce qui n'est pas aimable, aime simplement. Et alors la miséricorde de Dieu va te donner eh bien, de vivre l'extraordinaire. Si ce matin, Dieu te dit de ne pas douter et de ne pas laisser l'incrédulité venir te saisir, alors obéis. Et applique-toi à pouvoir placer toute ta confiance en Dieu. Alors tu verras là la gloire de Dieu. N'est-ce pas ce que Jésus a dit à cette femme, Marthe, si tu verras, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pareil. Viens, suis-moi. Écoute mes instructions. Et alors, en retour, tu verras ma gloire. Et durant encore cette année 2019, prenons la résolution de suivre Jésus. À travers tout ce qu'il pourra nous dire, tout ce qu'il pourra nous demander de faire. Et alors nous expérimenterons la gloire de sa présence. Je m'attends avec vous à ce qu'on arrive là des dimanches, alors que c'était un dimanche comme tous les autres. Et le Saint-Esprit est tel que même le programme est chamboulé, bouleversé, parce que le Saint-Esprit commence à se manifester. Pour l'avoir vécu, je crois à ces choses. Où même les dirigeants se mettaient de côté. Ils étaient à la même enseigne que les autres. On était tous à genoux parce qu'on voyait littéralement quelque chose d'invisible mais qui venait parcourir tout l'auditoire. Et en même temps que ce rideau, c'était littéralement comme un rideau qui venait toucher, les gens tombaient par terre, des cris, des pleurs, des repentances. Un réveil. Quand le peuple de Dieu, quand l'église de Jésus-Christ décide d'avoir soif, alléluia, du Dieu vivant et vrai. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et alléluia, qu'il boive et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus a répondu à ces hommes. Venez et voyez. Mais je pourrais encore rajouter à cela et permettez-moi de vous partager une autre vérité qui va également nous conduire vers la demeure de Jésus-Christ. Et cette vérité, on peut la résumer en un mot. C'est la sainteté. Là, j'aurais aimé entendre un amen. Hein. Mais Joël, t'as pas parlé assez fort, c'est ça le problème. Une autre vérité qui va nous aider à trouver le chemin de la demeure de Jésus-Christ, sainteté. Vous savez, sous la tiare qui se trouvait sur le souverain sacrificateur, Dieu avait demandé à Moïse de pouvoir plaquer, alléluia, graver sur une lame d'or, sainteté à l'Éternel. Et cette plaque, spirituellement parlant, elle doit être sur nos fronts. Elle doit être sur nos cœurs. Nous devons la vivre, pas seulement en parler, mais la vivre et continuer sur le chemin de sanctification. Et d'ailleurs, il y a tellement de passages qui nous invitent à pouvoir comprendre que le Dieu qu'on sert est un Dieu saint et il ne pourra pas déroger à cela. Vous savez, personnellement, moi j'aime la propreté. Hein. Vous n'allez pas m'appeler monsieur propre, mais j'aime la propreté. Et je crois que c'est logique. Imaginez-vous un papier par terre dans la maison de Dieu, dans la maison de l'Éternel, c'est impensable. Tout est clean, tout est propre. Le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'ordre. Et je suis toujours émerveillé quand je vois, quand Jésus-Christ est ressuscité, il a pris le soin de plier son linge hein, dans le tombeau. Il n'était plus là, mais le linge était là. Il faut aimer la sainteté. Peuple de Dieu, nous avons besoin d'aimer la sainteté. S'il y a quelque chose que le diable en aura, c'est quand les choses sont propres, quand les choses sont arrangées. Regardez ce qu'il est dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 57, juste le verset 15, la première partie du verset 15. Le prophète Ésaïe parle de la part de Dieu et dit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite, dit Dieu, dans les lieux élevés et dans la sainteté. » Mais il rajoute « Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Mais il va dire « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » Pour espérer trouver et même habiter la demeure de Jésus, il nous faut tous les uns les autres apprendre à marcher dans la sainteté, apprendre à marcher dans la pureté, apprendre à marcher dans la droiture, apprendre à marcher dans la vérité, apprendre à marcher dans la pureté de cœur. Regardez ce que dit encore David, excusez-moi, je vous donne quelques versets, mais la parole de Dieu est puissante pour convaincre nos cœurs ce matin. Psaume chapitre 15, on va lire tout le chapitre, il n'y a que 5 versets. Psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marchera dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Pour ceux qui ne savent pas, l'opprobre c'est la honte. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi, écoutez-moi bien, il ne chancelle jamais. Et celui qui agit ainsi, il séjournera dans la tente de l'Éternel. Il séjournera dans la maison de l'Éternel. On a besoin de laisser le Seigneur, jour après jour, nous dépouiller de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Pendant le temps de jeûne et de prière, une sœur qui nous partageait ce que le Saint-Esprit lui a dit d'extirper, de doter donc de sa maison. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais elle a des lieux de soupçonner que lorsqu'elle nous a partagé ce témoignage, d'autres, dans le secret de leur vie, de leur cœur, ils ont aussi pris des résolutions pour également se dépouiller de tout ce qui n'est pas la gloire, alléluia, de Dieu. Jésus a pu dire à ses disciples, Satan vient dans ce monde. Mais sachez une chose, il n'a rien qui lui appartienne, qui se trouve au-dedans de moi. Et la sainteté, c'est arriver à pouvoir dire la même déclaration du Seigneur Jésus. Le diable, il peut faire ce qu'il veut. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'a rien qui lui appartienne, qui se trouve dans mon cœur, dans ma vie, dans ma maison. Et je vous assure, lorsqu'on prend cette résolution de marcher de sainteté en sainteté, on devient une puissance. L'ennemi lui-même a du mal à pouvoir nous approcher parce que la lumière de Dieu prend le dessus et nous brillons de tous les feux de Dieu et le Saint-Esprit peut pleinement se manifester. Nous ne pourrons pas entrer ni demeurer dans la demeure de Christ avec un cœur mauvais, c'est impossible. Et alors que je préparais ce message, je pensais encore à cette belle histoire que le Seigneur Jésus a racontée au travers de la parabole du fils prodigue. Rappelez-vous, ce père avec ses deux enfants et le dernier, le fils cadet, donc, a demandé sa part d'héritage alors que son papa était toujours en vie. Et il est parti avec la part d'héritage parce que le père ne lui a pas résisté. Et il est parti et il a vécu une telle débauche. Et puis au final, il est tombé dans la misère, à garder des pourceaux. Et au plus profond de son cœur, il a décidé de revenir dans la maison de son père avec un cœur repentant. Et l'histoire raconte dans Luc chapitre 15 que le père, avec une grande joie, c'est lui qui est parti courir, enlacer son fils et lui dire voilà, ce qui est passé est passé, ne t'inquiète plus, parce que tu es venu avec le cœur repentant, je t'accueille tout à nouveau dans la maison. Mais là où je voudrais attirer votre attention ce matin dans cette histoire de Luc 15, il y avait un fils aîné. Et le constat que l'on peut faire concernant ce fils aîné, il y avait de la colère et de l'amertume qui animaient son cœur. Il y avait de la colère et de la haine même qui animaient son cœur à l'égard de son frère cadet. Son frère cadet qui avait, c'est vrai, dilapidé tous les biens. de son père. Mais cette même colère, cette même amertume dans le cœur du fils aîné l'empêchait d'entrer dans la maison du père. On le lit dans Luc chapitre 15, verset 28. Quand ce fils aîné, qui était toute la journée donc à travailler dans les champs, quand il a appris eh bien, que finalement le fils cadet était de retour, il est arrivé dans la journée, lui ne le savait pas. Et les serviteurs eh bien, de la maison de son père lui a informé qu'il y avait de la musique, que le veau gras même avait été tué, parce que ton petit frère était de retour à la maison. Il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Ce verset, c'est toute une prédication. Ce verset, il est puissant, il est fort. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Remarquez, première remarque. Personne ne l'a empêché d'entrer. Hein. C'est lui seul, par son attitude, qui s'est empêché d'entrer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le mal que nous tolérons dans notre vie nous empêchera toujours d'entrer dans la demeure de Dieu. Vous savez ce que dit la Bible? Le méchant, il ne résiste pas dans l'assemblée des saints. C'est une question de temps. À un moment donné, il finit par partir. Ça l'insupporte. C'est dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est cette deuxième partie de ce verset 28. Son père sortit et le pria d'entrer. Le verbe prier ici vient du grec parakaleo. Et parakaleo veut dire supplier. S'efforcer d'apaiser par supplication. Et je m'imagine encore, alors que Jésus raconte cette histoire, eh bien ce père qui est là, il a appris certainement par ses serviteurs, ben, ton fils est né, il est dehors, il ne veut pas entrer. Ah bon? Et le papa qui vient, peut-être était-il avancé en âge. Et avec tout le tact, la tendresse, essayer de convaincre son fils aîné. Écoute mon fils, ton petit frère, celui qui était loin de Dieu, il est revenu à la vie. On ne devait pas, eh bien, pour la circonstance, dresser la table et se réjouir. Son père a dû supplier son fils aîné de pouvoir rentrer. Et ça me parle. Son père sortit et le pria d'entrer. Un jour, Dieu lui-même, par l'intermédiaire de son fils, parce que Jésus, le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et d'ailleurs, le livre de Timothée nous le dit. Dieu est venu lui-même. Il est sorti de son ciel de gloire. Il est sorti de sa demeure pour venir nous réconcilier avec lui-même. Le sacrifice de Jésus a été suffisant, son sang a coulé, pour que nous puissions en retour être pardonnés de nos péchés. Et encore, par l'Église, Jésus supplie le monde entier. Jésus lui-même, eh bien, par notre bouche, supplie le monde entier de pouvoir se réconcilier avec Dieu le Père. Parce que tout a été accompli sur le bois infâme. Alléluia, sur ce bois qui a été dressé il y a déjà 2000 ans de cela. Et voyez-vous, lorsque toutes les fois nous nous égarons, tel un Père aimant, Dieu encore, plein d'amour, vient au-devant de nous et nous aide à retrouver le chemin à la sainteté. Vous savez, le Dieu qu'on sert, ce n'est pas un tortionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui nous écrase. Ah, tu as vu, hein, etc. Non, il vient avec douceur, avec tact. J'ai beau regarder la Bible, quand même le pécheur, la pécheresse vient au pied du Seigneur, le Seigneur souvent ne fait aucun reproche, il accueille, il restaure, il relève. Et ce matin, Dieu veut relever encore ce matin. Il ne t'accusera pas. Ce qu'il veut, c'est que tu reconnaisses ton péché. Ce qu'il veut, c'est que tu le laisses te conduire et te diriger vers, alléluia, sa maison, sa sainte demeure. Un texte que j'ai retrouvé aussi pour vous, Exode chapitre 15, verset 13. Il nous dit, Exode chapitre 15, verset 13, « Par ta miséricorde, tu as conduit, parlant du peuple d'Israël, le peuple hébreu qui est sorti à bien de la mainmise, alléluia, de Pharaon, par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges. » Vers où? Vers la demeure de ta sainteté. Mon frère, ma sœur, laisse-toi ce matin conduire vers la demeure de la sainteté de ton Dieu. Refuse toute forme de mal, refuse toute forme à bien d'iniquité, d'injustice, et viens te réfugier à lui dans la demeure sainte, notre Père céleste. Je voudrais conclure ce matin. On a vu que Jésus très simplement, de manière incisive, a répondu à ses deux disciples, « Où demeures-tu, maître ?» Jésus va leur dire, « Venez et voyez. » Il y a un acte d'obéissance à fournir avant de voir là où Dieu demeure. Et on vient de découvrir que la sainteté est la condition incontournable pour entrer dans la demeure de Dieu. Parce que le Dieu qu'on sert est un Dieu saint. Et je bénis le Seigneur qu'il soit un Dieu saint. Il aurait pu être un autre Dieu, mais je bénis le Seigneur qu'il soit un Dieu saint. Mais en conclusion, je termine en vous donnant peut-être une autre indication, une autre information qui va nous conduire vers la demeure de Christ. C'est là peut-être même une grande vérité, eh bien, qui concerne tous ceux qui appartiennent véritablement à Jésus-Christ ce matin, et je m'adresse donc aux chrétiens et chrétiennes. Ce que je voudrais vous dire de la part du Seigneur, et ce ne sera pas un scoop, mais on a besoin de réentendre ces choses. Nous sommes les uns et les autres devenus la demeure même de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes devenus la demeure de Jésus-Christ. Quand je vois qu'on est là et on se démène, on cherche, on va même courir après les personnes. N'allez jamais courir après moi. Hein. Si je n'arrive pas à vous conduire vers Jésus-Christ, j'ai échoué dans mon ministère. Parce que je suis un chrétien comme vous, sauvé par grâce. Nous avons besoin de courir vers Jésus. Mais ce que Jésus est en train de nous rappeler ce matin, c'est qu'il a fait de nous sa demeure. Nous sommes le temple de Jésus-Christ. Nous sommes le temple, alléluia, du Saint-Esprit. C'est une grande vérité que nous oublions trop souvent, mais qui est écrit ô combien de fois dans la Bible. Juste quelques versets que je vous cite à pêle-mêle, prenez vos stylos. Galates chapitre 2, verset 20, par exemple. « J'ai été crucifié avec Christ, dit l'apôtre Paul. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Arriver le matin et se rappeler que Christ vit avec moi. Quand je vais faire les courses, Christ est avec moi. Quand je vais au travail, Christ est avec moi. Ou non ? Ou est-ce qu'il est avec nous quand on rentre uniquement bien dans cette salle de culte ? Non. Christ a fait sa demeure au-dedans de moi. Quel bonheur, quelle grâce ! Et là, c'est pour cela qu'on devient un danger pour tout le royaume ténébreux. Quand on a besoin de réaliser toutes ces choses. Autre passage, Éphésiens chapitre 2, verset 22. « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » On le chante. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? » Et à partir de cela, eh bien, on peut chanter comme David, on peut louer Dieu comme David, on est animé de l'Esprit de Dieu, on est plein de zèle, plein de feu, on est plein de joie, et les fruits de l'Esprit émanent de nos vies, de nos cœurs. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Et on va s'en arrêter là. « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. » De toute façon, quand l'amour est dans notre cœur, Christ est là forcément, et vice-versa. Parce que Jésus-Christ est dans mon cœur, alors forcément, le fruit manifeste, c'est avant tout l'amour. L'amour. Nous sommes la demeure du Christ. Et chaque jour, nous pouvons développer une communion personnelle avec ce Dieu d'amour. Le maître de l'univers habite nos vies, nos cœurs. Et à n'importe quel moment, je peux le rencontrer. Je n'ai pas besoin de courir. Je n'ai pas besoin d'aller à droite, à gauche. Vous savez qu'il y a des personnes qui vont même jusqu'à Jérusalem se faire baptiser là-bas ou bien récupérer des choses. Tout ça, c'est de la superstition, même du mysticisme. Le Seigneur, il a fait en sorte que, il soit tout près de nous, tout près de notre bouche, tout près de notre cœur. Et mieux encore, pour ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ, alléluia, fait de nous sa simple et sa sainte demeure. Que Dieu soit béni. Encore faut-il que nous réalisions ces vérités ce matin et que nous puissions les vivre. Que nous veillons toujours à pouvoir conserver nos corps. On l'a vu la dernière fois. Nous rappeler que ce corps est devenu le temple même du Saint-Esprit. On a besoin de nous attacher à Jésus. On a besoin d'avoir soif de lui. On a besoin de garder sa parole. Il y a d'ailleurs un dernier verset que j'aimerais placer devant vos yeux. Jean chapitre 14, et puis après on va prier. Jean chapitre 14 et le verset 23. Jésus lui répondit. Il répondit à qui ? À l'un de ses disciples, à Jude. Il va dire, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nul besoin d'aller courir. Jésus lui-même vient vers nous. Nous ferons notre demeure chez lui. Et je voudrais vraiment que Dieu puisse individuellement habiter nos cœurs. Habiter de manière effective notre être tout entier. qu'il n'y ait point de recoin, qu'il n'y ait point de quoi ombrager dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut baisser les têtes, fermer les yeux et laisser encore le Saint-Esprit nous sonder de l'intérieur? J'aime ce passage de l'Ancien Testament où Dieu lui-même va saisir la bouche du prophète, je crois, Sophonie, qui va dire « Je viens et je fouille Jérusalem avec des lampes. » Et ce matin, laisse la lumière de Christ, la lumière de la parole de Dieu venir sonder ton cœur de l'intérieur. Peut-être y a-t-il encore des coins ombragés. Et pourtant, paradoxalement, tu aspires à connaître Dieu. Toi aussi, tout comme ces deux disciples, tu veux connaître la demeure de Dieu. Tu veux y séjourner, comme a dit David. Mais on l'a entendu ce matin par le don spirituel. Tu as besoin d'abord de suivre les instructions de Dieu. Tu as besoin d'abord d'entendre la voix de Dieu te dire de venir à lui, ou tout au moins de revenir à lui. Et je voudrais encore ce matin donner l'occasion à un homme, à une femme, à un chrétien, une chrétienne, peut-être une personne qui viendrait pour là ou les premières fois, de pouvoir venir ou revenir à Christ. Et par un acte de foi, dire, mais Seigneur, mon problème, mon péché, ma difficulté, ma souffrance, mon épreuve, ce qui est comme une entrave, je la dépose à tes pieds. Et alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, je voudrais encourager ces amis, ce matin, ces frères, ces sœurs, qui ont besoin, ce matin, de pouvoir se lever et répondre favorablement à l'appel de Dieu. Il te dit, viens, et alors en retour, tu verras ma gloire. Viens, viens vers moi. Le Seigneur n'a eu de cesse d'inviter l'humanité entière. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, tu as besoin de venir à lui, parce que tu manques de joie. Et tu es constamment dans cette tristesse que tu ne peux expliquer. Et je te dis ce matin, c'est parce qu'il y a malheureusement du poison dans ton corps, dans ton cœur. Tu n'es pas en paix parce que tu as besoin de te réconcilier avec ton frère ou avec ta sœur. Il y a tellement de choses. Et tu as besoin peut-être ce matin de te lever. Si quelqu'un se sent concerné, levez-vous à votre place. Et je vais prier avec vous dans le nom de Jésus. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, je veux encore, par la grâce de Dieu, bénir un frère, une sœur. Et le Seigneur, alléluia, à l'instant même, vous libérera de tout ce qui peut être encore, des liens, des chaînes. On a besoin d'être vrai lorsqu'on s'approche de Dieu. La sainteté n'est pas incompatible avec la vérité, au contraire. Et parce qu'on désire être vrai, que nous entrons sur le chemin de la sainteté qui va nous conduire immanquablement vers la demeure de Christ. Seigneur, tu vois ces personnes qui se sont levées et tu connais leurs besoins. Seigneur, je voudrais juste, tel un sacrificateur, venir devant toi, être cet intermédiaire et prier, Seigneur Père, pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes amis qui se sont levés et qui ont besoin de ta grâce. Avec douceur, avec tendresse, tu t'approches d'elles, de toutes ces personnes. Et Seigneur, tu commences par les réconforter et même sécher leurs larmes. Sans aucun reproche, Seigneur Père, tu viens au devant d'eux et tu poses ta bonne main percée sur leur vie. Parce qu'à la croix, tu as pourvu pour le pardon de nos péchés. Mais à la croix, tu as pourvu pour que nous soyons guéris corps, âme et esprit. À la croix, tu as pourvu pour que nous soyons délivrés, affranchis de tout lien, de toute chaîne. Et je te prie d'intervenir, de te glorifier dans leur situation. Tu vois, Seigneur Père, mon Dieu, même les nœuds. Tu vois même, Seigneur Père, les difficultés que certains peuvent rencontrer. Interviens, s'il te plaît. Quelquefois, les difficultés devant nous sont comme inextricables, semblables à des murs ou bien des remparts infranchissables. Mais toi qui as terrassé les murailles de Jéricho, tu es capable encore en ce matin de pouvoir, Seigneur, honorer la foi de ceux de celles qui se sont manifestés et qui veulent venir à toi afin, en retour, de voir ta gloire. Seigneur, libère-les, délivre-les, pardonne leurs péchés. Seigneur, aide-les à pouvoir obéir à ta voix. Seigneur, donne-leur ce courage, donne-leur cette volonté. Et toi, Seigneur, tu vas les conduire toi-même dans ta sainte demeure. Toi, tu vas les conduire toi-même dans ta sainte victoire. Toi, tu vas les conduire toi-même dans ta sainte joie, dans ta sainte paix. Seigneur, je te prie de te glorifier et de te manifester. Et j'ai une prière encore, Seigneur, Père, mon Dieu, pour l'Église entière. Que nous puissions aller de l'avant, que nous ne nous relâchions point. Ce que tu nous as accordé pendant ces 4 jours de jeûne, nous voudrions le voir encore fructifier. Seigneur, Père, ce n'est que le début. Et Seigneur, Père, mon Dieu, nous opposons aux œuvres de l'ennemi qui essaye, Seigneur, par tous les moyens. Seigneur, Père, mon Dieu, de nous arrêter, mais ne pourra pas arrêter le train qui est en marche. Seigneur, il ne pourra pas arrêter l'évangile puissant. Seigneur, qui parcourt sur toute la surface de la terre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous réclamons la ville d'Istres pour toi. Nous réclamons la ville de Rassouin pour toi. Nous réclamons la ville d'Entre-Saint pour toi. Nous réclamons la ville, Seigneur Père, de Saint-Mitre pour toi. Seigneur, je te prie dans ta grâce, toute la France pour toi, tout le monde entier pour toi. Seigneur, le diable est un voleur, est un menteur, mais toi tu es le vainqueur, le plus que vainqueur. À toi toute la gloire, Seigneur, sois béni et sois glorifié. Père, dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire, sainteté à l'éternel. Seigneur, je te prie de nous aider les heures qui vont suivre, les jours qui vont suivre. Seigneur, à continuer ce travail de sanctification. Seigneur, prépare, Seigneur, ce réveil. Prépare cette réforme. Seigneur, Père, aide-nous à chambouler, Seigneur, Père, mon Dieu, nos plannings. Aide-nous à mettre de l'ordre dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons. Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire, tout ce qui attriste le Saint-Esprit, tout ce que nous pouvons entendre, voir, Seigneur, nous le refusons, Seigneur, Père, mon Dieu, afin de ne pas attrister le Saint-Esprit qui a daigné faire de nos corps son Saint-Temple. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.